Bonjour et bienvenue au Bulletin Azur, épisode numéro 9. Le Bulletin Azur, c'est quoi est-ce? Eh bien, c'est un ensemble de nouvelles, de démos, également de témoignages. L'URL de référence, c'est akms/lebulletinazur. Les annonces sont également sur le tweet Windows Azure FR. Et puis, vous pouvez nous écrire soit à @benjguin, soit à @pierrecou, soit.
Hâte t'es compté, pour
Voilà.
ma part.
Donc, Pierre n'est pas là aujourd'hui parce que, on tourne. En fait, il y en a un qui n'est
Ouais.
pas là, en général.
Ouais,
Et
il tourne
donc,
sa pelouse, là, je crois.
c'est ça. Et donc, là, aujourd'hui, c'est Pierre qui n'est pas là.
Voilà.
Donc, très bien. Cloud Cover Show, tu veux nous parler de Cloud Cover
Bah,
Show,
pour
Thomas?
mémoire, oui, le bulletin Azure s'inspire du Cloud Cover Show fait par nos cousins américains. Mais alors,
Voilà.
ils n'ont pas fait d'épisode depuis la dernière fois.
Ouais.
Donc, voilà, on a plein de news quand même, hein, mais...
Non, mais ils ont été très occupés en fait parce qu'ils ont fait une tournée mondiale suite à la sortie du bulletin de pardon de pas du bulletin Azure
Enfin, le
non
bulletin Azure, mais de la plateforme
des
Azure.
nouveautés
Voilà.
de juin en fait pour les annoncer un peu
Et
partout
oui.
dans le monde et
Ils ont fait
donc
des tech-ed,
et oui
tout
il y a eu des
ça.
TechEd en Amérique en
En
Europe
Europe.
et donc voilà.
Donc, du coup, ils ont été occupés.
Exactement, d'où le résultat.
Donc, voilà. Pas de Cloud Cover
Mais il
Show
l'avait annoncé.
ce mois-ci. Par contre, heureusement, plein d'actualités, à commencer par les
Exactement.
nouvelles locales. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvelles locales? Premièrement, on a des vidéos qui sont maintenant disponibles pour deux événements. Le premier, c'est l'après-midi du développement consacré à Big Data et Hadoop.
Ouais.
Voilà, peut-être un petit
Donc,
mot sur le...
oui, on a enfin la vidéo, les vidéos de ça. On avait eu un petit problème pour les sortir, mais ça y est, elles sont disponibles. Donc en fait, on a tout un tas, 4 heures de démonstration à peu près. Enfin, c'est pas que des démonstrations, mais il y
Ouais.
a, je dirais que sur les 4 heures, il y a peut-être 2h30, 3 heures de démonstration quand même,
D'accord.
qui
Riche.
sont sur Hadoop, sur Azure, mais pas que.
Pas que.
Également,
HPC, NoSQL.
voilà, Stream Insight.
Et des cas d'usage de tout ça.
Exactement, et puis un petit coup de robot à la fin.
Comme ça.
Voilà.
L'autre gros événement, c'était le 20 juin, le Windows Azure
Exactement.
Dev Camp,
Oui.
hein, sur lequel on a eu quand même beaucoup de monde.
Exactement, oui.
Et là,
Les salles étaient pleines à craquer. Il y avait
c'était
également
archi plein.
du
Il y
monde à regarder
avait...
les live streaming.
Tout à fait. Et maintenant, on a déjà, dirais-je même, toutes les vidéos en ligne.
Exactement.
Donc ça, c'était une journée donc assez remplie, hein. On avait également des gens de Corp qui étaient venus présenter en français les nouveautés de la plateforme.
Exactement, parce qu'il y a des Français à Corp aussi.
Eh bien oui, on en a aussi. Donc, si vous avez raté la journée, c'est quand même l'endroit où trouver toutes les vidéos pour le tour d'ensemble de la plateforme Azure. Donc, tout ce qui a été annoncé, tout ce qui est sorti le 7 juin,
Voilà.
toutes les nouveautés, et puis un deep dive sur un certain nombre de sujets.
Voilà.
Pas tous les sujets, mais on complète au fur et à mesure, même
Ouais.
aujourd'hui même, hein. Mais donc, les Azure Websites, les machines virtuelles, évidemment, le IaaS.
Ouais.
Un petit zoom en anglais ce coup-ci, mais sur les nouveautés SQL,
Oui.
enfin sur SQL Azure en général et
Sur les données en général. Et
voilà,
puis
sur les
avec
fédérations.
une présentation aussi sur Hadoop d'ailleurs,
Ouais, tout à fait.
intéressante, très intéressante, de Wenming Ye.
Absolument. Et un petit retour sur la partie plateforme as a service,
Avec des nouveautés
qui est
aussi
toujours
comme le
là.
cache distribué qui peut être maintenant à l'intérieur des WebRoll et
Tout à
WorkCA Role,
fait.
par exemple.
Donc là, un URL raccourci akms/devcamp20juin. Voilà, c'est ce qu'on a de plus synthétique. Il y a quand même quelques heures de vidéo, mais
Ah oui, il y a au moins 5 heures de
voilà,
vidéo. Hein.
mais très complet.
Mais quand on les passe en x2, ça fait 2h30.
C'est nickel.
Hein.
Ça fait une soirée, quoi. C'est bien.
C'est ça.
Voilà, et toujours sur le blog Windows Azure France, toutes les actualités de la plateforme en français. Et puis au-delà de ça, eh ben, on a tout un tas d'actualités, hein. Donc on va commencer par les billets de Benjamin ici présent. Deux billets
Sur Need.
sur le déploiement d'une application Facebook.
Exactement. Donc en fait, je suis parti d'un exemple qui est une application de gestion des listes de cadeaux qu'on aimerait bien avoir.
Ah, c'est pas mal ça.
Donc ce scénario, il est intéressant parce que d'abord, il n'y a qu'une table vraiment utile, qui
Ouais,
est la liste des cadeaux.
effectivement.
Et après, il y a pas mal de choses que je pourrais faire ensuite autour de l'identité, puisqu'en fait, un utilisateur et une personne ne sont pas forcément la même chose. En particulier, si je crée la liste de cadeaux de mes enfants.
Ouais.
C'est moi qui me connecte et pas eux. Et donc j'agis en tant qu'eux. Donc voilà, ça me permet de développer ce genre de scénario.
Pas mal.
Et donc ce scénario, il a commencé dans le premier poste avec le code et puis le fait d'héberger ça dans des cloud services, donc dans la partie PaaS, hein, sous forme de web role.
D'accord.
Et d'héberger ça sous forme d'application Facebook. Donc là, on a une identité qui est fournie par Facebook, évidemment.
Bien sûr.
Et qui apparaît comme une application au sein de Facebook, en fait.
D'accord.
Donc ça, c'est le premier cas.
Voilà.
D'accord. Et puis le deuxième cas, donc il y a un zip qui permet de télécharger le code de ça. Et le deuxième cas, c'est le fait de déployer cette même application dans Azure Websites.
Azure Websites.
Et un cas intéressant là-dedans, c'est que dans Azure Websites, quand on est en mutualisé,
ouais,
on ne peut pas nécessairement choisir le nom de domaine, mais dans le cas d'une application Canvas, on s'en fiche puisque justement l'URL n'est pas visible par l'utilisateur final. Enfin,
ouais,
il peut chercher, mais je veux dire, elle n'est pas évidente. Et que l'avantage de ça, à l'inverse, c'est qu'on a un certificat SSL qui est déjà fourni. Donc on n'a pas besoin de créer son propre certificat.
Ah oui, d'accord, c'est
bon
savoir,
on peut
ça.
Utiliser ce certificat directement dans l'application Canvas. Donc ça simplifie beaucoup le déploiement de cette application.
La configuration de l'application.
Exactement.
Et donc les websites, en deux mots, juste pour rappeler la différence par rapport au cloud service, c'est que ce sont des sites web à vocation, on va dire, peut-être à démarrer plus rapidement et moins cher, hein, pour déployer des applications web, .NET, PHP ou autre.
Ouais.
Donc on crée très facilement le site web. Par défaut, il est sur une instance mutualisée, d'où son coût réduit.
Oui.
Et on peut après basculer
sur
une
jusqu'à
instance,
gratuit, hein, même.
Voire carrément gratuit.
Oui. Hein,
donc c'est gratuit pendant les 3 mois d'évaluation, plus gratuit un an actuellement. Et après, on paye finalement uniquement la bande passante et le stockage.
Ouais.
Donc c'est quand même peu onéreux. Mmh. Et après, on peut passer sur des instances dédiées si jamais on a besoin de plus de puissance. Et donc, on peut y déployer des applications Facebook, entre autres.
Exactement.
Un très bon cas d'usage. Un petit billet synthétique sur l'accès aux nouvelles fonctionnalités annoncées le 7 juin et comment utiliser, faire les premiers pas, hein,
voilà,
avec le nouveau portail, etc. Et tous les liens qui vont bien sur les training kits, etc.
Le but, c'est vraiment de dire où sont les ressources principales pour démarrer. Il y en a plein, mais celles-ci sont vraiment celles par lesquelles on peut démarrer pour avoir un peu tout, quoi.
Pour avoir la bonne overview.
Voilà.
Bon, on manque pas de contenu dans l'ensemble sur cette nouvelle release.
Exactement.
Et un cas d'usage maintenant d'Azure dédié sur les applications mobiles.
Exactement. Donc souvent, les applications mobiles ont besoin d'un back-end en français.
Absolument.
Dans ce back-end, on va vouloir exposer des web services, des web API, puisque typiquement, on va faire ça en REST.
On va faire ça en REST, absolument.
Et on va vouloir exposer du JSON et tout. Et donc là, l'idée, c'est de montrer comment, en partant juste de Visual Studio et de l'environnement de développement, on va pouvoir créer le code et la base et déployer ça sur Azure, donc toujours dans Websites en l'occurrence,
tout à fait,
et d'avoir assez rapidement une API de type JSON, ainsi que je crois qu'il y a aussi l'interface utilisateur juste pour pouvoir faire les tests. C'est juste deux clics de plus d'avoir l'interface utilisateur simple sur ce sujet-là.
Et donc, c'est du MVC,
oui,
donc c'est léger, il n'y a pas de WCF,
très
simple.
Ça, oui.
L'idée, c'est qu'un développeur d'application mobile, lui, il est concentré sur son application.
Exactement.
Phone ou Windows 8.
Ouais.
Il faut un truc efficace côté back-office pour qu'il puisse implémenter son API web. Et donc là, on a un truc simple, quoi. C'est du MVC, du code first pour la base.
Il n'y a même pas de certificat, je crois.
C'est le truc qui marche tout de suite.
C'est ça, exactement.
Et quand on héberge ça dans un website, ma foi, on l'a dit, mais on le répète, c'est pas cher.
Exactement.
Tendance gratuit. Donc ça fait un back-office efficace pour une application mobile.
Oui, et pour ceux qui ont essayé les toolkits et qui ont trouvé ça un peu compliqué, etc., pour utiliser avec Windows Phone ou avec.
Ça fournit beaucoup de choses. Mais
avec des applications Windows 8. Là, l'idée, c'est de dire, bon, on n'a pas les mêmes fonctionnalités, on n'a pas les notifications qui sont incluses, etc. En revanche, juste pour des web services.
Un truc très simple.
Vous pouvez faire comme ça, c'est assez simple. Et en une demi-heure, vous avez votre web service prêt à l'emploi.
Excellentissime. Et puis, un billet sur, évidemment, une des fonctionnalités majeures de la nouvelle version de la plateforme, les VM.
Oui.
Hein, créer des VM. Donc, finalement,
VM comme virtual machine.
Virtual machine. Tout à fait. Voire même machine virtuelle.
Oui.
Et donc, un tutoriel pas à pas pour le BABA, donc démarrer sa première machine virtuelle, s'y connecter en remote desktop et voir qu'on a bien quelque chose au bout.
Une EMV.
Un serveur.
En français.
Voilà. Et on a même du Windows Server 2012 si on veut.
Exactement.
Donc, voilà, tutoriel, l'indispensable, démarrer ma première machine virtuelle.
Exactement.
Ensuite, petite nouveauté concernant MongoDB. Donc, on travaille beaucoup sur MongoDB ces temps-ci. Hein. Enfin, voilà, pas mal. Oui. Ça fait partie des solutions de stockage de données qui sont populaires et qui fonctionnent bien dans Windows Azure.
Dans le monde NoSQL, en général, MongoDB fait partie
voilà.
de la liste.
C'est un peu le, voilà, le MySQL du NoSQL, hein, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti avec, il y a un certain temps déjà, avec Tengen, qui donc édite MongoDB, un package au sens plateforme ouais. de service, hein, cloud service comme on dit maintenant, qui permettait de lancer MongoDB en mode replica set, donc un cluster MongoDB. Donc ça c'était dans le monde PaaS et maintenant on a la même chose pour le monde IaaS.
Ouais.
Donc ici c'est un installeur donc qui va que vous installez sur votre machine locale et qui va utiliser l'API pour à distance vous installer, vous configurer un cluster MongoDB en démarrant les machines virtuelles qui vont bien.
C'est lui qui va se charger d'aller créer les différentes machines virtuelles, etc.
Exactement. On lui donne simplement les credentials qu'on récupère avec le download Publish Settings et il s'occupe du reste.
Tiens, voilà les clés, crée-moi un cluster.
Voilà, débrouille-toi avec ça. Donc ça, c'est très très bien. Je pense que c'est une bonne, voilà, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire avec PowerShell, ne serait-ce qu'à ce titre-là, c'est intéressant, puisque ça automatise totalement l'installation et la configuration de la plateforme.
Il a fait en PowerShell ou avec le Node.js, on ne sait pas.
C'est du PowerShell.
C'est du PowerShell, très bien.
Donc, c'est sympa.
Nickel.
Voilà. Ensuite, un petit tutoriel.
Voilà, donc ça, ce tutoriel, en fait, c'est celui dont je m'étais inspiré pour vous montrer comment faire un back-end.
D'accord.
Et c'est lui, il parle de
Windows Azure Website.
Voilà, de Windows Azure Website et SQL Database. Donc ça, comme pour l'exemple du back-end, la seule différence, c'est qu'au lieu de faire des API, là, on fait vraiment l'interface graphique.
Interface graphique.
mais c'est le même principe, donc, et c'est en anglais.
Donc,
c'est précis. Et c'est sur le site de WindowsAzure.com.
Ouais. On rappelle qu'on trouve beaucoup d'informations sur le site qui a été refait, WindowsAzure.com.
Oui.
Dans la section Develop.
Exactement.
Voilà, on a tout organisé par langage. On trouve tous les tutoriaux. Et si on cherche, pas très très loin ici, on trouve le lien sur le Training Kit également. Hein.
Oui, le Training Kit qui a été complètement mis à jour également. On ne le répétera jamais assez. Ce Training Kit est une mine d'informations.
Il y a tout dedans.
Autres, voilà, tout.
Il y a tout, c'est la Bible.
Entre autres pour les labs.
Ouais.
Donc si vous voulez faire des exercices pour vous entraîner à manipuler Windows Azure, on vous prend par la main. Il y a un document qui dit voilà, faites ça, 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 ça. Et au bout de 90 minutes en général, vous repartez avec une expérience Windows Azure. Vous avez compris une des fonctionnalités en plus. C'est un bon moyen de s'auto-former sur Windows Azure.
Et il faut savoir que c'est ce qu'on utilise nous pour les formations, pour les labs, pour les DevCamp, tout ce qu'on fait.
Même pour notre auto-formation.
Voire même pour nous-mêmes. Voilà. Donc c'est du bon tout ça.
Ouais.
Ah, Active Directory.
Ah, alors
Active Directory dans Windows Azure. Alors, nous avons deux billets qui ont été postés sur le blog Windows Azure.
Donc là, on ne montre que le 2.
C'est le 2, mais alors il y en a un qui était bien aussi.
Un tout petit peu.
Alors, ils sont assez riches, ces billets.
Oui.
Heureusement, Benjamin va nous les synthétiser en quelques phrases.
Donc, en fait, Windows Azure Active Directory, on peut dire qu'on a pris un ensemble de technologies tournant autour de l'identité, l'autorisation et authentification. On a pris l'annuaire de Office 365.
D'accord.
On a pris Active Directory Federation Services, on a pris Active Directory à demeure, on a pris également tout ce qui est Windows Identity Foundation, Access Control Services,
ACS,
des protocoles standards comme OAuth, comme AWS Federation, comme SAML2, les API REST, du JSON, etc.
Et on a bien fort.
et à la fin, on a Windows Azure Active Directory. L'essentiel du travail est de rendre ça simple, donc de faire en sorte que ça reste simple.
C'est là que ça se complique.
Non, mais les équipes travaillent dur là-dessus, mais ils font en sorte que ça reste simple.
D'accord.
Et en particulier, si tu remontes un peu juste au début, On va voir, il y a un graphe API aussi, oui, j'avais oublié le graphe API, qui est aussi un principe classique. Et donc là, par exemple, on peut interroger, on peut récupérer des informations sur un utilisateur, donc aide@contoso.com, parce que
contoso.com
est une multinationale bien connue.
Bien connue, surtout du côté de Redmond.
Voilà, et donc on va pouvoir récupérer des informations, et donc ça nous renvoie ici JSON, des
directement
informations sur l'utilisateur.
Ça, c'est sympa, ça.
Donc ça, c'est un exemple d'interrogation
d'un Active Directory, mais via une API REST.
Active Directory, exactement. Donc voilà, c'est l'exemple de résultat. Alors le résultat est un peu moins simple que la question,
oui,
mais en même temps, il y a un certain nombre
que c'est utilisable. Hein.
Ouais. Mais voilà, effectivement, ça permet, et on a des URI qui nous permettent d'aller naviguer ensuite dans les différents groupes, etc. Enfin, donc voilà, le but, c'est effectivement de faire en sorte que le Windows Server Active Directory puisse être décliné dans le cloud, ce qui change pas mal de choses.
Ouais, avec des API adaptées.
Exactement. Au monde du web,
monde du web.
Donc voilà, okay. En quelques mots,
fantastique.
Redscape, Windows Azure Active Directory.
D'accord, un sujet qui va certainement revenir dans de futurs épisodes.
Exactement.
Du bulletin. Deux blogs sur les websites, hein, donc on parle quand même beaucoup des websites, mais ouais. C'est parce que c'est intéressant. Deux billets sur le blog Windows Azure. Un premier, on a pu faire dans l'autre sens, mais un premier qui est donc utiliser Azure Websites à partir de plateformes non Windows. D'accord, donc un des gros intérêts de Websites, même si c'est valable aussi pour le reste de la plateforme, hein, mais sur Websites, il y a eu quand même un focus particulier sur faire en sorte qu'on puisse bien les utiliser, même si on développe sur Mac, ce qui est quand même beaucoup le cas, il y a beaucoup de web designers et de développeurs sur Mac, ou même sur Linux. Mmh. Et donc ce billet vous montre tous les éléments de la chose. Donc c'est un projet, un démarrage 100% sur une plateforme Mac, donc utiliser le portail qui est en HTML5, créer le site web, utiliser Git pour déployer le site lui-même, qu'il soit en PHP ou autre chose. Et on a donc une vidéo de M. Glenn Block qui nous résume ça rapidement, en quelques minutes. Et une deuxième vidéo qui nous montre, donc au-delà de déployer mon site, je peux aussi automatiser la création de machines virtuelles et leur configuration à partir d'une ligne de commande Linux ou Mac.
Donc ça, Yavor, apparemment.
Là, c'est un M. Yavor, absolument.
C'est presque George V, son nom.
Georgiev. Donc les command line tools Linux Mac sont développés en Node.js en fait, donc c'est simple à installer sur Mac et Linux, et ça permet de manipuler les machines virtuelles depuis la ligne de commande.
Avec un magnifique ASCII art.
Ah, tout à fait, là c'est vraiment, on est très content de cet ASCII art là. Ça c'était le deuxième billet, et le premier c'était sur la plateforme Windows, parce que on n'oublie pas quand même, avec les websites, et on peut bien sûr créer des sites PHP, MySQL avec les websites. Et sur Windows, nous avons WebMatrix, qui est un outil qui nous permet d'éditer le code PHP de façon plus sympathique, avec de l'IntelliSense, avec de la colorisation de la syntaxe, etc. Et qui est bien entendu totalement intégré dans les websites. Donc une fois qu'on a créé notre website et qu'on a mis par exemple Drupal dessus, on peut le connecter directement à WebMatrix, donc récupérer les Publish Settings. Et ils vont WebMatrix va s'adapter, on va dire, à l'applicatif. Donc si c'est juste du PHP ou si c'est du Drupal ici, il va vous proposer des extensions juste pour gérer votre site Drupal.
Si vous n'avez pas envie d'utiliser cet outil-là, vous pouvez utiliser du FTP ou des
Notepad, FTP, etc.
Ça vaut quand même vraiment le coup d'aller regarder WebMatrix parce que c'est un outil assez puissant et pratique.
Voilà, avec les websites, on a une multitude de choix. Hein. On peut faire WebMatrix, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est tout intégré. On a encore une fois l'éditeur qui est de bonne qualité, qui est gratuit, WebMatrix, il faut quand même et qui est totalement intégré avec Websites. Mais voilà, on peut utiliser ce
gratuit
qu'on veut.
Et en couleur.
Et complètement. Et c'est quand même rare d'avoir les deux. Et si on n'est pas sur Windows, on utilise idem ce qu'on veut, Git, FTP, l'éditeur qu'on préfère. Et on peut utiliser les Websites. Deux blog posts, deux billets intéressants et complets sur les nouveautés de la plateforme. Le premier sur question fréquemment posée depuis l'annonce, comment on peut comparer SQL Database, qui est donc le nouveau nom de SQL Azure, donc SQL Database qui est la
Windows Azure SQL Database,
qui est donc la base de données as a service, par rapport à installer SQL Server dans des machines virtuelles Windows, puisque c'est parfaitement possible dans la Windows Azure.
Windows dans Windows Azure.
Ce qui est parfaitement possible avec le IaaS donc, qui est sorti le 7 juin. Et donc ce blog post résume, on va dire, les critères de différenciation entre installer SQL Server sur une VM et puis utiliser SQL Azure. Donc les grands critères, on les voit là, c'est donc la compatibilité. Bien sûr, une base SQL Server sur une VM sera plus compatible avec un SQL Server. C'est un SQL Server normal, entre guillemets. Le contrôle contre le coût, c'est-à-dire qu'en termes de coût, SQL Azure sera probablement moins cher. Et puis le scale-out. Donc le scale-out, quelque chose qui est possible avec SQL Azure, grâce aux fédérations SQL Azure. Et moins avec SQL Server, parce que le serveur, on a du scale-up, donc rajouter des ressources dans les VM. Et après, le scale-out, c'est possible, mais il faut le faire soi-même.
Mais il faut faire son architecture.
Globalement, il faut le faire soi-même. Alors qu'avec les fédérations, on a.
Qui est sorti là-dessus récemment. Voilà. Sur SQL Server 2012.
Alors avec les fédérations, on a ça qui est inclus dans la base. Donc voilà un billet bien complet, et il y a un tableau à la fin qui résume.
Est-ce que tu préfères Fast ou Moderate, par exemple?
Tu choisis.
Il y a une en tête de
sachant qu'après, il faut faire attention. Donc voilà, un blog utile, si vous posez la question, finalement, quel choix pour une nouvelle application entre SQL Server et SQL Database. Et le deuxième blog post sur la partie Azure Drive, disque et images. Donc en fait, avant le 7 juin, on avait quelque chose qui s'appelait les Azure Drive, donc qui permettait de monter des VHD sur des instances de rôle, hein, parce que là on était dans le mode pass. Donc c'était utilisé principalement pour accéder à des données sur des disques, parce qu'on avait des applications qui avaient besoin d'accéder aux disques. Ça marchait globalement comme ça, voilà, finalement le guest OS accédait directement au drive. Et puis maintenant, avec le IaaS, on a des nouvelles notions qui apparaissent.
On a une plus grande intégration avec l'hyperviseur.
Alors, donc on a des disques qui apparaissent. Donc on parle de drive. Les drives, donc c'est les trucs qu'on monte sur une application en mode pass. Les disques, c'est les disques sur lesquels on peut booter une machine. Hein, donc petite différence, voilà. D'un point de vue technique, effectivement, on s'appuie sur l'hyperviseur. Donc c'est le host OS qui va accéder au blob, parce que derrière tout ça, il y a un blob avec un VHD. Donc là, on passe par la couche d'hypervision, d'accord. Donc c'est la grosse différence technique. Après, le disque, il apparaît dans le portail différemment, puisque le disque, il apparaît dans une liste et on peut créer une VM et booter sur ce disque.
La grosse différence pratique, hein, d'après ce que j'ai compris dans ce blog post, c'est que dans ce deuxième cas, on ne passe pas par le NIC, c'est-à-dire l'interface réseau.
On ne voit pas de trafic réseau sur la carte de la VM, mais bien sûr, il y a un trafic réseau au niveau du host.
Oui, mais qui ne prend pas sur les quotas qu'on a déjà en termes de bande passante d'une VM.
Et le dernier type, on va dire, de disque, ce sont les images. Donc là, les images, ce sont des VHD qui ont été sysprépés et qu'on peut utiliser pour démarrer plusieurs VM basées sur la même image. Donc on peut envoyer un VHD qu'on a préparé soi-même, qu'on a sysprépé, et le déclarer comme étant une image. Et partant de là, on va pouvoir cloner plusieurs VM sur cette image. Ce qui est différent de booter directement sur un disque, un VHD. Là, il n'y a pas de clonage. J'ai un disque pas sysprépé potentiellement et je boot directement dessus.
Une façon de le dire aussi, c'est que si vous faites une nouvelle machine à partir d'une image, vous allez avoir le VHD de l'image qui va rester et qui va être copié en tant qu'un nouveau VHD pour chaque machine que vous avez créée. Alors que pour le disque, vous prenez ce VHD, vous démarrez sur ce VHD et après vous ne pouvez pas redémarrer d'autres machines là-dessus.
Exactement.
D'un point de vue très pratique, c'est comme ça que ça peut se comprendre aussi.
Voilà, et puis on a des informations donc sur la façon dont fonctionnent les transactions, hein, puisque donc on a une question de transaction dans le billing, hein, notamment storage.
Les I/O.
Donc voilà, les I/O, on explique comment ça fonctionne par rapport au drive et au disque.
Très bien.
Donc voilà, un blog post bien complet pour refaire le tour des disques et des drives dans
à lire sur la plage.
Tout à fait, exactement. Emmener sur sa tablette. Un long blog post bien détaillé de notre ami Michael Washam. Voilà. sur les PowerShell CMDLets pour l'automatisation de machines virtuelles.
Le blog post de Michael est vraiment intéressant pour tout ce qui est automatisation. C'est vraiment la référence en fait.
Voilà.
Tout ce qui est automatisation avec PowerShell.
Alors disons qu'il y a,
c'est sur son blog qu'il faut aller.
Voilà, il y a la doc dans MSDN qui est vraiment en mode très synthétique, très référence. Donc là, si vous voulez une doc un peu plus tutoriale, mais sur laquelle on peut retourner aussi pour trouver des use cases simples, ouais. Voilà, changer la taille d'une VM, bah c'est effectivement la meilleure référence qu'on ait à ce moment-là. Et ça vaut le coup de le lire, parce que c'est vrai, il faut s'habituer un petit peu au système des pipes dans lequel on crée des objets, on les pipe, et c'est
et
bien
à
de
la
voir
fin, on dit update Azure, VM,
voilà, c'est bien de voir des exemples comme ça pour voir ce qu'on peut faire, par exemple ici changer les settings de cache sur plusieurs disques d'un coup, voilà, on peut batcher finalement des opérations avec les commandlets PowerShell.
Ouais, ou par exemple créer plusieurs, dans ce blog post je crois on crée plusieurs machines virtuelles en même temps, deux machines virtuelles en même temps. C'est plusieurs deux.
Oui, deux c'est déjà plusieurs. Bonne précision. Voilà. Un blog post sur running et faire tourner des applications Java sur Azure, c'est pas très nouveau, ça.
Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir effectivement dans l'IDE,
Les améliorations
avec le dernier IDE, le dernier SDK, etc. Donc
ça a été mis à jour tout ça récemment. Donc il n'y a pas de nouveauté majeure sur le fonctionnel, mais on améliore l'interface et l'intégration dans Eclipse. Donc il y a une nouvelle version qui est sortie en même temps que les annonces du 7 juin.
Exactement.
Développer des applications Java avec Eclipse et les déployer dans Azure.
Fort bien.
Voilà, il y a notre arsenal de langage.
Oui.
On ajoute Python. Alors c'est pas le SDK officiel, on va dire que c'est un ensemble d'outils qu'on met à disposition. La plupart sont sur
GitHub.
C'est quoi
tous les logos là ?
Tous les logos, ce sont les sites qui utilisent Python en production aujourd'hui, tous les grands sites. Voilà,
d'accord.
Donc c'est juste pour dire que
c'est utilisé comme langage.
C'est pas utilisé. Le blog post, le billet dans l'ensemble fait un petit tour d'ensemble de c'est quoi Python, pourquoi on s'y intéresse et qu'est-ce que Microsoft fait pour Python.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas que Azure dans l'histoire, même si ça commence par là. Python sur Windows Azure, c'est ça qui nous intéresse, bien sûr. Généralement, quand on dit faire tourner un truc dans Azure, il n'y a pas de difficulté à faire tourner le truc. Par contre, ce qui est utile, c'est d'avoir un SDK ou des librairies pour accéder évidemment aux fonctionnalités Azure depuis le truc. Donc ici, en l'occurrence, c'est principalement accéder au storage. Donc, par exemple, accéder au blob storage depuis Python. On a une librairie qui est sur GitHub, donc le Azure SDK pour Python.
Ah, très bien.
Voilà. Et après, ensuite, ce qui est sympa, c'est d'avoir un petit peu d'aide pour utiliser les frameworks les plus populaires. En Python, c'est Django, qui est le framework web le plus utilisé. Donc on a le support pour mettre tout ça dans 2JS, et puis on a avec les Python Tools pour Visual Studio, les PTVS, on a aussi un petit peu d'aide comme débugger des templates Django, des choses comme ça, de l'IntelliSense, etc. Donc pour développer tout ça, c'est séparé, on peut faire du Python dans son notepad favori et utiliser le SDK, mais l'intégration Visual Studio évidemment est sympathique.
Fort bien.
Voilà, un petit. Et puis on a un projet IPython qui est un Python interactif qui tourne dans un navigateur. Donc on peut taper du Python et l'exécuter en interactif. Voilà, pour faire des tests ou exécuter du code de façon interactive.
Et comme ça, un langage dynamique, du coup.
C'est très faisable. Voilà, et ça tourne dans Azure évidemment, et c'est exposé en interface web. Voilà, un petit billet rapide, c'est juste pour donner des nouvelles de Cloud9.
Oui.
Voilà,
donc Nuage 9.
Voilà, Nuage 9, donc est une IDE, une interface de développement dans le nuage, donc dans le navigateur. Juste pour dire que ça a été mis à jour pour déployer non seulement du PaaS, comme ça le faisait avant, mais également vers les Azure Websites. Ce qui était, on imagine, pas très complexe vu que Cloud9 s'appuie pas mal sur Git et qu'on supporte maintenant Git en natif dans les websites. Donc voilà, si vous aimez avoir votre éditeur dans le cloud, avec Cloud9, vous pouvez développer dans le cloud et publier
dans Azure. Ça peut être dans le cloud sans être dans le navigateur, là c'est dans le navigateur.
Absolument, tout à fait.
Enfin, c'est dans les deux. en l'occurrence.
C'est dans le navigateur, dans le cloud. Voilà, et puis un petit rappel, donc elle a un billet vraiment spécifique sur les command line tools pour Mac et Linux, donc qui permettent d'interagir avec les VM.
Ah, l'ASCII art.
En ligne de commande. Et on peut revoir l'ASCII art ici,
fond blanc, là.
On le voit un peu mieux là.
Ouais,
on le voit
sur
un peu
fond
mieux.
Blanc.
Voilà, il est sympa, on aime beaucoup ça, c'est très sympa. C'est vrai qu'un outil de ligne de commande comme ça, sans un petit ASCII art au début, c'est triste.
C'est très triste, mais là, non.
Voilà, et là, non, c'est beau. Et, petit tutoriel sur le blog Windows Azure, comme d'habitude, pour utiliser ces commandes sur Linux et macOS. Et voilà, on a fait le tour de nos petites actualités.
Très bien.
Et pour conclure...
Pas mal d'actualités pour un mois où il ne s'est rien passé.
Oui, tout à fait, hein, pour un mois calme. Hein, vivement,
vivement
le mois d'août. Hein.
Oui.
Alors, pour conclure, tu nous proposes de regarder un petit cas d'usage de Windows Azure Media Services.
Exactement. En fait, Windows Azure Media Services, c'est une des rares briques dont on n'a pas parlé du tout le 20 juin. Quand on a,
ça, c'est ballot.
À part dans les questions-réponses.
Oui, où les gens demandaient, mais pourquoi vous ne parlez pas de...
D'accord.
Bah, oui.
Donc du coup, on s'est dit, bon, on va faire une petite démo quand même. Dans le bulletin Azure. Donc ça, c'est un extrait de la documentation MSDN sur Windows Azure Media Services qui indique un peu toutes les briques qu'il y a là-dedans. Pour le dire rapidement, en fait, ce qui va nous intéresser ici dans la démonstration, c'est le fait que Windows Azure Media Services, c'est deux choses, enfin, du point de vue de la démonstration, c'est plein d'autres choses aussi, mais du point de vue de la démonstration, c'est deux choses. Enfin, trois. Le fait d'uploader, évidemment, c'est la partie ingest, d'uploader un média, donc là, par exemple, un fichier MP4. Deuxièmement, le fait de pouvoir traiter le MP4 pour en faire autre chose. Donc là, par exemple, on va pouvoir faire un encodage en smooth streaming, donc en fait en différentes résolutions suivant la bande passante du client.
Ouais.
Voilà. Et puis également, on va le traiter de façon à pouvoir aussi l'exposer sur de l'iOS, donc sur de l'iPhone, par exemple.
L'iPhone. Okay.
Et dernière chose, on va également faire un point d'origine, c'est-à-dire qu'en fait, on va exposer ce flux-là sur Internet. Donc là, voilà, c'est le on-demand origin qui va nous permettre
de diffuser la vidéo.
Voilà, voilà, exactement.
Donc finalement, j'ai mon fichier source chez moi, et après, je l'ai encodé en multiples formats et je le diffuse entièrement dans Azure.
Donc, si tu montres la diapositive d'après, voilà. Donc ça, dans le scénario de la démonstration, en fait, bon, comme je vis un peu dans Windows Azure, du coup, j'ai utilisé du Windows Azure partout, mais y compris pour les deux parties en gris, c'est-à-dire que le poste développement
est dans Azure.
Est dans Azure, ce qui n'est pas du tout obligatoire, évidemment.
Non, c'est pas obligé, mais pourquoi pas.
Le site web dans lequel j'expose la vidéo, dans lequel j'ai le lecteur, par exemple, Silverlight pour le smooth streaming, ou la page qui contient la balise vidéo pour iOS, sont sous forme de websites, mais là encore, ça pourrait être n'importe quel site web statique,
ailleurs,
tout à fait. Autant le faire dans le website.
Bon, oui.
Et la partie qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'on utilise Windows Azure Media Services, donc à la fois pour son moteur, Windows Azure Blob Storage, puisque c'est là que les assets, entre autres, vont être stockés, donc les assets, c'est-à-dire les ensembles de fichiers.
Les fichiers.
Donc là, ils vont être stockés dans le Blob Storage. Et puis les origines, donc là, c'est ce qu'on va demander en disant, ben voilà, le smooth streaming, je veux le faire à partir de telle URL, fournis-moi une URL pour
le point qui expose la vidéo.
Exactement.
Ok.
Donc on va voir comment est-ce que ça se fait. Et puis après, bah, les clients, ça peut être le navigateur ou un téléphone pour voir effectivement cette vidéo. Comme exemple de vidéo, on a demandé à Blaise de nous parler d'un nouvel adjectif qu'il a envie de lancer, qui est infonuagique.
Infonuagique.
Donc voilà, cette vidéo va nous permettre de voir ce qu'il entend par là.
De tester tout ça.
Très bien, je te propose de prendre le tuyau.
Attention, 1, 2, 3, go.
Hop. Et hop.
Et hop. Voilà.
Donc, si on regarde la vidéo, donc là, c'est un fichier MP4 que j'ai ici. Voilà, et donc
Blaise nous explique sa théorie.
Voilà, sa théorie. Voilà, donc il dit bien info nuagique, etc. Donc cette vidéo-là, je vais l'avoir aussi sur mon poste de travail, donc là, en l'occurrence, sur ma machine. Alors, je vais me reconnecter. Sur ma machine, donc qui là en l'occurrence c'est une machine IaaS Azure, mais on s'en fiche.
Mais
ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Donc je m'y connecte.
Donc là c'est ta machine, ça.
Oui. Voilà.
Ah.
Donc, je me connecte sur cette machine dans laquelle j'ai un Visual Studio 2010, le SDK 1.6 de Windows Azure. Pour l'instant, la version preview de Windows Azure Media Services n'est pas compatible avec le SDK 1.7. Donc, on utilise le SDK 1.6. Et puis, on a le code de cette application qui est ici. Donc, que fait l'application? Tout d'abord, on va récupérer un Cloud Media Context, donc qui est le contexte à partir duquel on va pouvoir faire contexte.quelque quelque chose pour effectivement manipuler les web services de Windows Azure Media Services. Donc, ce Cloud Media Context prend un nom de compte et une clé qui sont là en l'occurrence deux constantes et on peut créer ça. Donc, vous pouvez demander en fait à accéder aux nouvelles features de Windows Azure Media
On a accès à
Services hein,
Preview. Ouais.
et accéder à ça.
On a accès
Et
à la
puis
preview aussi.
ensuite, on va exécuter le code qui est ici, qui a plusieurs étapes. Première étape, on upload le fichier MP4. Donc ça, ce fichier MP4, hein, c'est un fichier que j'ai ici, hein,
Qui est
que
en
j'ai sur
local.
cette machine
D'accord.
locale également.
Donc on l'envoie sur
On
la
l'envoie
plateforme.
donc dans Windows Azure Media Services. En fait, lui, il va
Ouais.
le stocker sur le compte de stockage qu'on a associé à son compte Windows Azure Media Services. Ensuite, on va soumettre, enfin créer et soumettre un job qui envoie de MP4 vers Smooth Streaming et également de Smooth Streaming vers HLS, comme le dit pas le
D'accord.
commentaire qui est ici.
Tout à fait. Donc c'est un job avec deux tâches dedans,
Exactement.
une tâche pour l'encodage en smooth
Oui.
et une pour l'encodage en
Je vais y
HLS.
revenir,
D'accord,
je vais la
ok.
montrer. Et puis ensuite, une fois que le job est terminé, donc là on attend qu'il soit terminé, et une fois qu'il est terminé, on va aller regarder dans les différentes tâches, dans les différents assets, etc. Et on va pouvoir publier ça soit sous forme HLS, donc là pour la partie
iOS.
Apple, et puis soit sous la forme Smooth Streaming qui est ici. On peut également télécharger les différents fichiers de Smooth Streaming. Là, c'est juste du commentaire, mais
D'accord,
le
pour les
code est ici.
récupérer en
Voilà.
local si on voulait.
Exactement. Si on voulait non pas exposer un point
Voilà.
d'origine, mais
Voilà.
les télécharger pour les utiliser sur son
Voilà.
propre serveur.
Là, on fait tout, mais on peut évidemment
Exactement.
choisir le bout. On peut faire que de l'encodage, que de la diffusion, les deux, c'est au
Exactement.
choix.
Comment est-ce que ça se présente? Alors, première chose, si je vais ici, hop là, zut. Je voulais aller. Je remonte ici. Donc là, première chose, je crée mon asset en disant voilà, voilà où se trouve mon fichier local et puis je l'upload. Voilà. Et j'ai un événement également qui se déclenche à chaque fois qu'il y a
D'accord.
des nouveautés sur le fait que
Le
l'upload
plot
avance, quoi.
avance.
Voilà.
D'accord.
Donc ça,
On peut suivre la
on voit ce
chose.
que ça donne. Et donc en fait, en termes d'output, ça va donner. Donc là, je l'ai exécuté tout à l'heure. Hein,
Ouais.
en termes d'output, on voit ça,
L'upload
à
qui
savoir
avance.
que l'upload qui avance.
Donc c'est
Voilà.
évidemment adapté à l'envoi de fichiers volumineux, hein, parce
Oui, bon
que
là c'est un petit fichier, mais
oui, voilà,
effectivement.
le fichier source peut être assez gros, donc
Oui, tout
on
à
a
fait.
le.
Et on a également des partenariats pour pouvoir faire de l'envoi via UDP aussi.
D'accord.
Donc voilà. Ensuite, on va créer le job. Donc la création du job, ça se passe ici. Alors, on a deux tâches. Une première tâche donc, qui se fait avec le processeur. Donc, on a plusieurs processeurs aussi. Donc, un processeur Windows Azure Media Encoder qui est en fait Expression Encoder, mais envoyé dans les nuages. On
D'accord.
aime bien envoyer des trucs dans les nuages dans
Ah, nous,
Azure.
on fait
Voilà, on
beaucoup
fait
de ça.
beaucoup ça.
Hein.
Donc, Expression Encoder dans les nuages, c'est Windows Azure Media Encoder. Et il y a un certain nombre de tâches. Donc, à cette URL-là, vous pouvez voir
D'accord.
toutes ces chaînes de caractères en fait possibles. Là, par
OK.
exemple, on passe de H264 vers du 720p.
OK. Donc, l'encodeur, Expression Encoder de la Windows Azure Media, il sait faire plein de choses,
Voilà.
plein de sources, plein de destinations, plein de
Exactement.
settings.
Voilà,
Et avec,
il sait faire en gros ce genre de choses-là.
avec la chaîne magique là, on peut faire
Voilà.
voilà, du H264, broadband,
Du
je ne sais pas
VC1,
quoi, du
c'est-à-dire du Windows
VC1,
Media
du
Vidéo, du
WMA.
Windows. Voilà.
Pour une, et tout ça correspond à des settings aussi de qualité, de taille,
Exactement.
etc., etc.
Ensuite, deuxième tâche. Alors, point intéressant, c'est qu'on a en entrée de cette tâche-là, le Task Input Media Asset, l'asset qu'on avait créé plus haut,
Avant?
à savoir le MP4 qu'on a
D'accord.
uploadé. Et puis en sortie, un output asset qu'on appelle task 1 output asset parce
D'accord.
que c'est un nom de variable qui
Qui
semblait adapté.
ouais.
Ensuite, on va prendre un deuxième média processeur qui est le Smooth Streams to HLS Task,
D'accord.
donc
Donc on
HTTP
fait.
Live Streaming, donc
Ouais.
qui est le Smooth Streaming iOS. Hein.
Ouais.
Et on va faire une deuxième tâche comme ça, donc même chose, on crée ça. Et le point intéressant, c'est que l'input média asset de cette deuxième tâche, c'est le task 1 output asset. Donc, ce qui fait que les deux tâches s'enchaîneront. Puisque, évidemment, l'une a besoin de la sortie de l'autre. Et ensuite, on soumet le job. Donc, la soumission du job, ça se passe comme ça. On soumet le job là.
Donc, là, évidemment, c'est.
Job state is scheduled.
Le job est schedulé et on attend.
Voilà,
la
on poll toutes les 10 secondes, là, en l'occurrence, et puis on regarde pour voir ce que ça donne. Bon. Okay. Et une fois que c'est fini. Bon, on a le détail un peu, quels sont les processeurs qui ont été utilisés, etc., combien de temps ça a pris, enfin, pour les différentes sous-tâches aussi, puisque dans le smooth streaming, en fait, on
a pas mal de boulot.
On a pas mal de boulot, la création de pas mal de choses.
Ouais.
Je peux vous montrer d'ailleurs dans.
Le résultat.
En fait, les assets, mais vus du blob storage, là, cette fois-ci.
Là, c'est la vue bas niveau, entre guillemets.
Exactement.
C'est vraiment ce qui est stocké.
Donc, on a celui-ci, qui est le infonuagique.mp. P4, donc qui est l'asset qu'on a uploadé au début.
Mmh.
Ensuite, la première tâche a comme output cet asset-là, qui est un ensemble de fichiers. Donc avec le fichier, le manifeste serveur, le manifeste client, plus les différentes vidéos dans les différents formats.
Donc là, on voit que c'est le vrai format smooth streaming. C'est pas le système qu'on avait qui explosait
les
fichiers. C'est le vrai complet.
Exactement. Et puis ensuite, on passe de ce format-là à celui d'Apple. Où il y a encore plus de
séries de fichiers avec différents formats.
Différents. Et puis, dernière étape, c'est le fait de demander à ce que ces assets-là soient exposés via des fermes de serveurs web. Et donc, on va publier. Donc, si on regarde juste, par exemple, la publication en smooth streaming ici, l'autre est exactement pareil, hein, le code à peu près. On dit, contexte, donc c'est toujours notre contexte qu'on avait récupéré au début, point locator, point create origin locator, en disant, ça doit être dispo, et c'est l'output asset. Donc, on expose de la première tâche. La string policy, c'est de dire c'est disponible 5 jours ou 10 jours ou 360 jours ou plus. Et puis, à partir de dans moins 5 minutes.
A priori, plutôt genre maintenant.
C'est déjà disponible.
Okay.
Et ça, dans l'exécution, qu'est-ce que ça nous crée? Ça va nous fournir, en fait une première URL qui est ici. Pour le premier.
Donc on a l'URL finale de diffusion.
Et même chose pour la partie Apple qui est ici.
Ouais.
Là il est marqué Apple.
Tout à fait.
Donc voilà. Et ces deux URL-là, je les ai copiées via WebMatrix dans les websites, mais ça n'a aucune importance.
Ça pourrait être.
Exactement.
Notepad dans FTP, dans je ne sais quoi.
Voilà, donc on retrouve en fait ces deux URL dans la page web qui est ici. Voilà. Et donc, en fait, le site statique qui est ici va pouvoir renvoyer le navigateur en disant « va voir à cette URL-là, c'est là que se trouve, le manifeste. » Et donc, en fonction de… Donc, le player qui, lui,
le player
qui est ici, saura traiter la chose. Donc, en fait, si on va dessus, donc là, c'est dans Azure Websites, et qu'on va sur Smooth, on va pouvoir…
On a le player.
Voir effectivement la vidéo en smooth streaming.
On a vu, c'était flou, c'est moins flou.
Voilà, exactement.
Ça dépend de la bande
plus
passante.
Ça va, plus effectivement c'est net, puisqu'en fait la bande passante s'améliore.
Exactement.
On peut descendre. Alors,
info nuagique.
Et alors, la partie importante, c'est la conclusion. Windows Azure.
Bien dit Blaise.
Donc, merci Blaise. Windows Azure semble s'imposer. Et puis, c'est disponible également sur téléphone. Bon, là, on n'a pas un iPhone sous la main, mais pourrait.
Ça marcherait.
vous pouvez nous croire, ça marcherait. Donc, voilà pour cette démonstration.
Super.
En console. Windows Azure Media Services.
Fantastique.
Je te redonne la main pour la conclusion, histoire de voir la dernière slide dans laquelle il est marqué c'est fini. En gros,
Voilà, on en était là.
Donc voilà, on était là. Et voilà.
C'est fini.
Alors, pas au mois prochain, puisque je pense qu'en août.
Ça va être calme, le bulletin va prendre des vacances.
Voilà. Donc on se retrouve en septembre, en revanche.
Eh oui.
Voilà, donc
en septembre,
3-1 ou à 3.
Exactement, on va voir. 2 ou 3, en fonction d'eux.
Ouais.
Avec certainement plein d'actualités sur la plateforme qui.
Ne cesse d'évoluer.
Qui ne cesse d'évoluer et qui devrait sortir aux alentours de septembre-octobre en version finale.
En version finale, exactement. Enfin, on verra.
Tout à fait.
Très bien, à bientôt.
Bonnes vacances, à bientôt.